Marques sont maintenant en solde. Jusqu'à 50% de rabais. Profitez-en pour vous équiper pour l'hiver. Ski alpin, ski de rando, ski de fond, bottes et manteaux chauds. On a tout ce qu'il vous faut pour profiter de la neige. Parce que l'hiver vous appartient, pensez nous voir à la vie sportive par l'accordé ou visitez l'accordé.com. L'accordé, dehors, toujours dehors.
Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide.
C'est parce que je suis vraiment dans le jus.
Il y a du sang partout, vite!
Écoute, je le connais bien cet échafaudage-là, pis c'est pas son genre de blesser le monde. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser.
Ben là, faut faire quelque chose.
Bah, j'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires.
Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST.
Dès maintenant, obtenez jusqu'à 900 $ de rabais lors du super événement d'échange de points chez Pharmaprix en échangeant jusqu'à 500 000 points PC Optimum. Détails en magasin.
C'est le vendredi fou chez Luminaire Napair. Ben oui, Napair paie les taxes sur tous les luminaires à prix régulier. Et il y a aussi les aspirateurs centraux qui aspirent à de gros rabais. Comme une Cyclovac 700 watts de puissance, valeur de 1000 $ réduite à 699 $, accessoires inclus. Et sur tous les autres aspirateurs centraux Cyclovac, les taxes sont payées. Jusqu'au 29 novembre chez Luminaire Napair à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts.
Vous avez toujours un ordinateur avec Windows 10? Pensez aux promotions du Vendredi fou de PC en vrac pour passer à Windows 11. Tous les ordinateurs sont en promotion. Jusqu'à 35% de rabais. Du 28 novembre au 6 décembre seulement, PC en vrac, votre équipement informatique à prix imbattable.
Floralie Jouvence, c'est le plus beau magasin de Noël à Québec et Lévis. Épatez-vous convives avec la plus belle variété de décorations au style unique et le plus grand éventail de sapins naturels et artificiels. Ouvert les soirs en semaine jusqu'à 21h.
La classique hivernale Ellipse Assurance débarque à l'Hippodrome de Trois-Rivières du 28 novembre au 7 décembre prochain. Assistez à 10 jours de hockey extérieur intense, dont la Coupe de la 55 entre 4 équipes LHJMQ. Les anciens Canadiens contre les anciens de la LHJMQ. Du hockey universitaire, collégial et plus encore. Action garantie sur la glace. Et profitez de 6 spectacles avec des artistes incontournables, dont Kain, DJ Mike Demero et David Pinot. Billets journaliers en vente sur coupe55.ca.
On est fou au prix du gros.
Ah oui? Fou comment?
Ben, fou comme 11 000 $ comptant.
Tu veux dire quoi?
Ben, t'achètes un véhicule, puis tu peux gagner 11 000 $ comptant.
Arrête, pas vrai?
Oh que oui! Oui?
Tu me niaises.
Non, ma belle.
Sérieux, 11 000 comptant?
Encore oui! Vendredi, samedi et lundi, achète un véhicule dans l'une des 4 concessions du prix du gros et cours la chance de gagner 11 000 $ comptant. Ça, c'est fou! On t'attend ce vendredi, samedi et lundi dans l'une de nos concessions.
Mes offres pop du Vendredi fou sont à la SAQ. C'est l'occasion de profiter de grandes économies en combinant nos rabais circulaires à vos offres personnalisées Inspire. Autrement dit, mes offres pop, c'est des prix pas pire pantoute sur plein de produits puis un paquet de points Inspire en plus. Ouh! Mais faites vite, c'est pop pour longtemps. Découvrez vos offres pop sur l'appli SAQ, dans l'infolettre ou avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails dans SAQ.com.
Allô tout le monde, c'est votre sommeil. Alors, l'équipe Santé Bien-être de Dormez-vous m'a demandé de vous parler de toutes nos petites folies, parce qu'on en fait tous, hein. J'en fais des folies, vous en faites des folies, vous aussi. Dormez seulement un 3-4 heures par nuit, ça c'est fou, ça. Endurer un matelas fini par pure nostalgie, ça c'est très, très fou, ça. Mais manquer le vendredi fou alors que vous êtes tellement fatigué que vous êtes en train de virer fou, là, vous avez vraiment l'air fou.
Pendant le vendredi fou, obtenez 30% de rabais sur presque tout. Toutes ces folies, ça se passe seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité.
Pour agir sur les inégalités sociales et lutter contre la pauvreté et l'exclusion, IGA des Sources met les bouchées triples. Jusqu'au 14 décembre, lorsque vous faites un don à Centraide, IGA des Sources triple le montant. C'est trois fois plus de support aux 225 organismes, trois fois plus de soutien aux personnes les plus vulnérables et trois fois plus de bien dans notre communauté. En cette période des fêtes, donnons généreusement au centraide-québec.com.
Dernière semaine de prévente pour la passe de soir Stoneham-Mont-Sainte-Anne. Ski tous les soirs dès le 5 décembre à Stoneham et du jeudi au samedi au Mont-Sainte-Anne dès le 26 décembre. Des centaines de soirées de pur plaisir. Pas d'équipement? La passe équipée s'occupe de tout. On se voit sur les pistes.
À Québec, Le vendredi fou est arrivé chez Desjardins Auto Collection pour tout le mois de novembre. Achetez la Ford Escape PHEV et recevez des pneus d'hiver. Et ce n'est pas tout. Achetez la Mach-E ou Lightning et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2 500. Parce que le vendredi fou, c'est encore mieux quand ça dure tout le mois. Certaines conditions s'appliquent. Passez nous voir dès maintenant.
Choix. 98.
98.
1.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Oui, bonsoir. Vous êtes bien dans les Radio X-Files en ce vendredi. Ça surprend un peu cet effet sonore, Christian Page.
Oui, effectivement.
J'imagine les gens dans la voiture, là, faire, voyons, qu'est-ce qui se passe?
C'est une publicité pour oui. Pepto-Bismol.
C'est particulier, disons ça comme ça.
Oui, en fait, ce qu'on vient d'entendre, d'abord, bonne soirée.
Oui, oui, bienvenue dans les Radio X-Files, tout à fait.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un enregistrement. Ah, et là, évidemment, on n'est pas obligé d'y croire, là, mais c'est un enregistrement réalisé en 1971. Ça a été réalisé dans les Sierra Mountains, en Californie. Et c'est, semble-t-il, un enregistrement d'une voix d'un Bigfoot.
Hein, ah oui? Notre
Sasquatch, oui. Donc, on avait deux, entre guillemets, chasseurs de Bigfoot qui se trouvaient sur place. Ils avaient mis des magnétophones. Et là, à quelques reprises, ils avaient entendu au cours des soirées précédentes des sons tout près de leur campement, un peu étranges, qu'ils n'associaient à aucune espèce animale. Et puis voilà qu'ils ont décidé de placer ce soir-là un enregistrement. Et puis, ils ont capté ces sons-là.
C'est très étrange, en effet.
Oui, c'est ça. Donc, mais bon, est-ce authentique ou non? C'est vrai que dans le milieu des amateurs de Bigfoot, Sasquatch, cet enregistrement-là des Sierra Mountains est souvent considéré comme un enregistrement authentique, là. Mais bon, d'abord, avant de juger si un enregistrement est authentique, il faudrait d'abord juger si la créature existe réellement, là, ce qui n'a jamais été démontré. D'ailleurs, ça m'a toujours un peu amusé, ce discours-là que les gens tiennent, hein, en disant moi, je suis des experts. T'sais, ces gens-là se présentent un peu comme des experts de Bigfoot, comme d'autres se présentent comme experts des ovnis ou experts des fantômes.
Mais des experts d'un peu tout, en fait, je pense.
Oui, oui, mais tu as raison. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment peut-on être expert de quelque chose que tu n'as pas sous la main? Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même le dire, là, les. N'ayons pas peur des mots, là, même si ça me vaut quelques critiques, là, mais que ce soit les gens qui s'intéressent aux ovnis ou aux fantômes ou aux Bigfoot, ces gens-là, quand ils disent « je suis un expert de... » Non, les experts étudient une chose. Hein, un expert du cancer étudie le cancer. Un expert des patates, il étudie les patates, tu comprends? Mais un expert du Bigfoot, il étudie, lui, des témoignages de Bigfoot. Les experts d'OVNI étudient pas les OVNI, ils étudient des témoignages d'OVNI. Et puis les chasseurs de fantômes ou les experts en fantômes étudient les témoignages de fantômes.
Ouais.
C'est un peu comme si... Imagine-toi, quelqu'un dirait « moi, je suis un expert en patates, mais je n'étudie que le témoignage des gens qui ont mangé des patates. »
Oui, c'est vrai que dans le fond,
t'es pas forcément un expert. Oui, c'est ça, t'es pas un expert en patates, t'es un expert en témoignage. Bon, c'est un peu cet élément-là. Ça fait toujours un peu sourire. Bon, cela est néanmoins, ça veut pas dire que ces gens-là sont pas motivés puis ils font pas ce qu'ils ont à faire de bonne foi. Mais il faut quand même toujours un peu nuancer que... Quand même, les Bigfoot ou les ovnis, on les a pas sous la main pour dire, voilà, j'enquête sur ce sujet-là. On est toujours un peu limité à dire, nous enquêtons sur un témoignage. Donc, cet enregistrement est considéré par certains comme étant un véritable témoignage d'un son de Bigfoot. Ça remonte, comme je te l'ai mentionné, en 1971. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Ben oui. C'est parce que ça fait partie un peu de ma première nouvelle. Je voulais commencer avec sur un ton un peu amusant. Il y a quelques jours, le FBI, oui, le bureau d'enquête fédérale américain...
Ils ont trouvé un Bigfoot. Non?
Non, ils ont mis sur leur... sur leur site, ce qu'ils appellent le Reading Room, hein, donc où les gens peuvent avoir un accès à, ouais, des dossiers du FBI. On a vraiment de... Si vous êtes jamais allé sur ce site-là, ça vaut vraiment le détour. Vous avez des documents qui vont de Jack l'Éventreur à Dillinger, à Bonnie and Clyde, bon, à Alcatraz. Vous avez à peu près l'ensemble de tous les documents dans lesquels le FBI a été impliqué comme service d'enquête. Et il y a une espèce de volet sur les histoires un peu plus étranges. Vous avez là-dedans des trucs, bien sûr, sur les ovnis, combustion humaine spontanée, ce genre de trucs. Mais ils ont mis, il y a quelques jours, ils ont mis en ligne un petit document de 22 pages. C'est pas beaucoup. C'est à peu près les seuls documents que le FBI avait en archive. Donc, 22 pages concernant le Bigfoot. Bon, si vous allez sur le site, vous allez voir que, bon, c'est pas un dossier très étoffé, 22 pages, ça contient surtout des articles et des correspondances qui remontent pour la plupart aux années 70. Je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, le FBI porterait le moindre attention à ce sujet-là, mais bon, à l'époque, ça attirait, il y avait une espèce d'engouement médiatique, et je te dirais que la plupart des documents qu'on retrouve là-dedans, il y a rien de très spectaculaire. Il y a un petit document qui est assez amusant, par exemple. À l'époque, dans les années 70, fin des années 70 et dans les années 80, il y avait un type qui s'appelait Peter Byrne. Et Peter Byrne était un chasseur, tu sais, le genre chasseur de fauves. Là. Il avait participé à des chasses en Afrique, à des safaris, tout ça. Il était né en Irlande. Il est décédé d'ailleurs en 2023 à l'âge très avancé de 97 ans. Donc, et ce Peter Byrne, c'est un individu qui a beaucoup marqué l'histoire de la cryptozoologie, hein, l'étude des animaux étranges et méconnus, parce que, comme il était un chasseur aguerri, il s'est aussi intéressé à des animaux, les cryptides, et principalement au Bigfoot du côté des États-Unis et au Yeti. D'ailleurs, on lui doit un épisode là, tout à fait rocambolesque lié au Yeti. Il y avait, dans les années 50, alors que... On commençait, il y avait des espèces de lignes, des cordées d'alpinistes qui se succédaient dans l'Everest à la recherche de la meilleure voie pour atteindre le sommet de l'Everest. Et dans l'Himalaya, donc des alpinistes se donnaient rendez-vous dans l'Himalaya pour trouver la voie d'accès vers le sommet de l'Everest. Et puis, à un moment donné, parmi ces expéditions, Peter Byrne apprend, il faisait partie un peu, bon, il était parmi les nombreux Britanniques qui se rendaient dans l'Himalaya. C'était un peu comme une espèce de destination fabuleuse.
OK, une expédition.
Et on avait...
Oui,
et on avait... Ouais. Il y avait... Et en 19... Et au début des années 50, il y a des alpinistes qui avaient... On était toujours en quête de cette voie vers l'Everest. Et des alpinistes avaient rapporté avoir découvert ou vu sur des cimes enneigées, sur des glaciers, des empreintes de pas d'un animal inconnu que les Sherpas désignaient comme étant le Yeti. En fait, vraiment, c'est à ce moment-là que le Yeti est vraiment apparu dans la culture occidentale. Et ayant entendu parler de ça, bien évidemment, Peter Byrne, chasseur comme il était, il n'a pas pu résister à l'idée d'aller essayer de traquer la mystérieuse créature. Et durant ses premières expéditions au Népal, il va découvrir, il découvre que quelque part dans une espèce de monastère tibétain, les moines conservent une main de squelette. C'est quasiment un rock. Je le dis, c'est rocambolesque, cette histoire-là. Ils détiennent une espèce de main de squelette qu'ils disent être une main de Yeti.
Okay.
Alors, Peter Byrne en parle autour de lui. Il revient, il est à Londres, il parle de ça avec des gens. Il dit, hey, j'ai vu une main de Yeti dans un monastère au Népal. Et puis, éventuellement, des gens lui disent, qui sont intéressés, bien sûr, par les histoires de Yeti, lui disent, écoute, est-ce que tu pourrais, comme tu connais les moines qui sont là-bas, est-ce que tu pourrais te retourner sur place et voler la main? Et Peter Byrne de répondre, bon, non, c'est sûr que je peux pas voler la main. C'est considéré comme une relique sacrée dans le monastère. Alors, on lui demande, est-ce que tu pourrais au moins voler un doigt? Et finalement, Peter Byrne dit, oui, oui, je pourrais essayer de voler un doigt. Donc, crois-le ou non, on est au milieu des années 50. Byrne retourne au Népal. Il va retourner à ce fameux monastère. Il va réussir à enivrer l'un des gardiens. Il va voler un doigt qu'il va remplacer par un doigt humain. On lui a donné un doigt de squelette humain. Donc, il prend ce doigt de squelette humain, il va le rattacher, il va enlever un des doigts de la soi-disant main de Yeti. Il va un doigt de squelette, parce que la main, elle est à l'état de squelette. Il va mettre le doigt humain qu'il va rattacher avec des fils de nylon, ni vu ni connu. Il remet ça dans sa boîte. Il revient à Katmandou. Et là, le gros problème, c'est de ramener, faire sortir le fameux doigt en question du pays. Et il va faire appel... puis là, ça devient un scénario de film. Il va faire appel à James Stewart. Je sais pas si tu connais James Stewart, un acteur américain très célèbre dans les années 50. Il a joué notamment dans Fenêtre sur cour. C'était un peu l'acteur fétiche d'Alfred Hitchcock à l'époque. Donc, James Stewart se trouve à Katmandou pour le tournage d'un film. Et là, Byrne, par des contacts interposés, va remettre le doigt à James Stewart, qui va le cacher dans la mallette des sous-vêtements de son épouse, et ils vont ramener ça à Londres. La mallette se perd en chemin. Et éventuellement, lorsque James Stewart débarque à l'aéroport de Heathrow, à Londres, il découvre qu'il manque la mallette de son épouse, qui contient ses sous-vêtements, et bien sûr, le fameux doigt du Yeti. Donc, il va retourner à l'hôtel. Et le lendemain, un des bagagistes, hein, c'était sur la compagnie de la BOAC, la British Ocean Company, là, quelque chose comme ça. Et là, donc, un agent de la BOAC va frapper à la porte de son hôtel et dit « Bon, Monsieur Stewart, on a retrouvé votre mallette. » Et Stewart, en voyant la mallette, s'étonne qu'elle n'a pas été ouverte. Et là, il dit au commis, il dit, vous n'avez pas ouvert la mallette. Et là, le commis lui répond, vous savez, Monsieur Stewart, jamais un agent britannique n'oserait ouvrir la mallette qui contient les vêtements d'une dame. T'sais. Fait que finalement, tout était sain et sauf, la mallette était de retour et le doigt était à l'intérieur. Le doigt était confié au zoo de Londres et qui ont mené leur investigation. Et malheureusement, le doigt en question, le fameux doigt de Yeti volé par Peter Byrne, n'était rien de plus qu'un doigt humain. Hein. La main en question, main momifiée, était une main humaine elle aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est une histoire assez rocambolesque. Ouais, mais ça nous place un peu ce fameux Peter Byrne. Une espèce de tête brûlée qui s'est lancée dans des chasses au Yeti. Et du côté des États-Unis, bien sûr, il a mené plusieurs expéditions pour traquer le Bigfoot du côté de la Californie, notamment. Et dans les documents qu'on retrouve, qui ont été rendus publics cette semaine dans le FBI, encore une fois, hein, c'est des documents assez légers. Ça contient surtout des correspondances, des articles de journaux, des échanges un peu frivoles autour du Yeti et du Bigfoot, pardon. Et il y a quand même une lettre dedans où Peter Byrne s'est adressé au FBI pour demander la collaboration du bureau d'investigation pour étudier des poils qu'un témoin lui avait remis, qu'il disait être des poils de Bigfoot. Et crois-le ou non, le FBI a décidé de procéder à l'analyse des poils en question. Écoute, quand je lisais ce document-là, je me disais, c'est incroyable, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'essaie de m'imaginer la tête des gens du FBI aujourd'hui s'ils recevaient une telle demande. C'est sûr que ça passerait pas. Mais bon,
est-ce qu'ils ont fait ça? On va le faire, là.
Ouais, voilà, c'était les années 60. En tout était permis. Donc, finalement, le FBI va amener les fameux poils en question dans son laboratoire d'identité judiciaire. Ils vont procéder à une analyse et l'analyse, comme l'indique d'ailleurs un des documents qu'on retrouve là-dedans, une lettre-réponse finalement à Peter Byrne. c'est une lettre qui est datée du 22 février 1977 où le bureau du FBI disait à Peter Byrne, bon, on a analysé vos poils et finalement, ce n'était que des poils de cerf, tu sais. Donc, non, voilà. Ce n'est pas des poils de Bigfoot, encore une fois. Et ça me fait sourire parce que, bon, c'est pas la première fois. Bon, c'est assez amusant de retrouver ce genre de documents dans les archives du FBI, mais il faut quand même savoir qu'au fil des ans, puis même encore récemment, récemment, dans les années 2000, c'était en 2014, je crois, il y avait un scientifique de l'Université d'Oxford en Angleterre, Brian Sykes, qui avait, parce que souvent les amateurs de Bigfoot, les experts de Bigfoot, ceux qui étudient les témoignages de Bigfoot, donc les experts de Bigfoot disent souvent, oui, nous, on a des preuves biologiques de l'existence de la créature, mais les scientifiques ne portent pas intérêt à nos histoires. Hein. On a des poils, on a des échantillons biologiques, on a des excréments, mais les scientifiques ne portent pas d'intérêt à ça. Et pour répondre à cette critique, Brian Sykes, en 2014, avait envoyé une lettre circulaire à tous les associations ou groupes de chasseurs de Bigfoot ou de Yeti ou de Sasquatch, peu importe comment on les appelle, et peu importe la région du monde, hein, parce que des créatures, des hominidés inconnus, aux États-Unis, ils ont le Bigfoot, nous, on a le Sasquatch, au Népal, ils ont le Yeti, en Russie, ils ont l'Almasti, en Australie, ils ont le Yaoi. Okay. C'est toujours un peu le même type de créature, hein, cette espèce de gros gorille, mi-homme, mi-animal.
Donc, une par Brian... continent, presque.
Oui, oui, à peu près. Là, chacune a une variété. D'accord. Et donc, Brian Sykes a envoyé une lettre à toutes les organisations leur disant, écoutez, moi, je suis un scientifique, je dirige le laboratoire d'études génétiques de l'Université d'Oxford, en Angleterre, et si vous m'envoyez des échantillons, je vous garantis que je vais les étudier, on va mener une investigation rigoureuse et sérieuse. Et Brian Sykes a reçu, suite à cette demande, il a quand même reçu 57 échantillons provenant des quatre coins du monde et allant sur de poils à des excréments, à toutes sortes de trucs, mais c'était principalement des poils. Et il y avait là-dedans des poils que l'on disait des poils de Bigfoot ou de Yeti ou de Yaoi, peu importe. Bon. Et donc, il reçoit donc ces 57 échantillons. De ces 57 échantillons, il va en éliminer 20. Qui dès le premier constat visuel, soit qu'il s'agit de fibres synthétiques ou on peut immédiatement identifier ce que c'est. Et c'est clairement pas des poils de Bigfoot, de Yeti ou de quoi que ce soit. Ben donc, non, il va en éliminer 20. Il va donc en demeurer 37. Les 37 seront soumis à une analyse ADN. Et d'après toi, dans ce nombre de ce 37 analysés, d'après toi, combien d'entre eux se sont révélés être de véritables poils d'hominidés inconnus?
Zéro.
Eh, tout à fait. Zéro. Bon. C'était toujours autre chose. Des poils de yak, du crin de cheval ou peu importe. Donc, et ça me fait sourire parce que quand en lisant cette fameuse lettre de février 1977 du FBI à Peter Burns, lui disant, on a analysé vos poils et finalement, c'est rien que des poils de cerf. Mais ça me rappelait que c'était pas la première fois puis c'était pas non plus la dernière fois où des analyses allaient finalement se révéler, tomber dans un cul-de-sac. Et au moment où on se parle aujourd'hui, en 2025, faut-il le dire, il n'existe aucune preuve biologique jamais établie de l'existence de ces fameux hominidés inconnus. C'est pas faute d'avoir l'esprit ouvert, tu sais, parce que des gens vont dire « Ouais, mais t'as pas l'esprit ouvert. » C'est pas faute d'avoir l'esprit ouvert, tu sais, mais les preuves, malheureusement, sont pas là. Et des témoignages, malheureusement, ce n'est pas des preuves. Mais bon...
Mais j'imagine qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, si on avait à en trouver, ça serait déjà fait, j'imagine?
Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, le discours, c'est toujours de dire, oui, mais ce sont des créatures qui habitent des régions quasi inaccessibles, dans les contreforts des montagnes rocheuses, etc. Puis pour y être allé à quelques reprises dans ces régions-là, c'est vrai que ce sont des régions, on parle de milliers, c'est de milliers de kilomètres carrés de forêts qui sont à peu près vierges, hein, auxquelles on n'a pas vraiment accès, parce que, bon, c'est entre deux vallées de cimes enneigées, des rocheuses, écoute, il n'y a personne qui va là. Donc, est-ce que des communautés, des petites communautés d'animaux inconnus, ben, pourraient exister? Objectivement, la réponse est oui. Mais la problématique, c'est que les gens les voient, ces fameux Bigfoot, hein, et les Sasquatch. Donc, s'ils les voient, c'est qu'ils sont sur la route, ils sont près de zones habitées, ou tu comprends?
Oui.
Alors, à ce moment-là, oui, si ces créatures-là sont sur le bord des routes ou se côtoient des zones habitées, ben, éventuellement, avec les années, il y a bien un moment donné, un automobiliste qui en aurait frappé un ou quelque chose du genre, où on en aurait filmé un de manière soutenue, intéressante. À toutes les fois où on voit des films de Bigfoot, c'est toujours des trucs un peu très lointains, c'est flou, on ne sait pas trop ce que c'est entre des arbres, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et surtout, on nous ramène toujours, hein, on dirait que la meilleure preuve qu'on a du Bigfoot, c'est de toujours nous ramener un film tourné en octobre 1967, qui est un assez bon film où on voit une créature, là, on l'appelle le film Patterson-Gimlin, où pendant près d'une minute, on voit une créature qui marche devant le cinéaste. Mais bon, c'était en 1967. Je m'étonne que depuis 1967, on n'est pas avec l'avènement des appareils portables, et etc. Tout le monde a des caméras, puis on n'en filme pas. On en revient toujours à ce vieux film Super 8, qui est finalement, c'est même pas un film Super 8, c'est un film 16 mm. Et ce film-là, faut-il le dire, il est excessivement controversé. Hein? Certains sont prêts à jurer que ça nous montre vraiment un Sasquatch, mais il faut quand même le dire que le type qui a tourné ces images, là, c'est un petit escroc à la petite semaine qui était prêt à n'importe quelle fraude ou manipulation pour faire des sous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vraiment vu un Bigfoot et qu'il ne l'a pas filmé, mais disons que ça tombait mal que ce soit lui qui le filme. Tu comprends, c'était pas le gars qui avait la meilleure réputation en ville. Bon, mais finalement, c'est un peu... avec les années, on aurait peut-être trouvé des éléments plus déterminants que des images floues, quelques empreintes dans la boue. On n'a jamais trouvé... On trouve jamais d'excréments ou de poils ou de quoi que ce soit qui, ultimement, après analyse, se révèle être la vraie patente. Fait que finalement... même en restant l'esprit ouvert, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours agacé. Puis je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais je sais que je l'ai déjà évoqué à quelques reprises dans des entrevues. Le problème avec le Bigfoot et le Sasquatch et tout ça, c'est qu'une créature comme celle-là n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Donc, c'est pas simplement de dire est-ce qu'elle existe aujourd'hui, c'est pas ça le problème. C'est de dire est-ce qu'elle existe aujourd'hui et est-ce qu'il est possible qu'une créature comme ça soit apparue quelque part dans la chaîne de l'évolution et n'ait laissé aucun fossile. C'est pas rien qu'aujourd'hui, ça. On n'a aucun fossile. Les amateurs de Bigfoot disent oui, mais il y a eu un ancêtre, à un moment donné, une créature qui s'appelait le Gigantopithecus, hein, d'où le nom gigantesque, hein, Gigantopithecus. On voit le parallèle.
Oui, oui,
c'était un gros gorille qui vivait il y a à peu près, là, grosso modo, 50 000 ans, qui vivait principalement là, dans l'ouest de la Chine. On a trouvé quelques dents et des morceaux de mâchoire, mais c'était un primate. Autrement dit, c'était un gros gorille. Hein? Donc, et comme les gorilles, comme les ourang-outans, ben, ils se déplaçaient à quatre pattes, c'est-à-dire en s'appuyant sur ses membres de devant. T'sais, même s'ils mesuraient 2,50 m, 3 m, et c'était quand même un animal qui se déplaçait en s'appuyant sur ses membres avant. Et comme les gorilles ou comme les chimpanzés, quand ils marchaient debout, parce que bien sûr, les chimpanzés et les gorilles parfois peuvent marcher debout, mais quand ils marchent debout, ils ne font que quelques pas maladroits en se dandinant de gauche à droite, souvent pour impressionner les femelles de la communauté. Mais une créature là, qui marche debout, là, comme on voit le Bigfoot ou le Yeti, là, ça n'a jamais existé, ça, une créature comme ça. Mais jamais, jamais, jamais. Là. Les seules créatures qui sont parfaitement plantigrades et qui marchent debout, c'est la communauté des humains. Donc, on faut reculer dans l'histoire de l'humanité. Puis là, on va retrouver, évidemment, les Cro-Magnons, l'Australopithecus et autres, qui sont de la branche des homos, là, t'sais, comme Homo erectus, Homo Cro-Magnon ou Homo sapiens. Les homos marchent debout. Mais les Gigantopithecus ne faisaient pas partie de cette catégorie-là. C'est un grand primate, comme l'étaient les gorilles ou les chimpanzés. Donc, faire le lien entre ça et le Bigfoot... Ben, il faut faire une espèce de gymnastique intellectuelle qui voudrait que, éventuellement, ces créatures-là soient devenues parfaitement plantigrades, comme les humains, mais n'ont jamais, mais jamais laissé de fossiles derrière eux. Et autre problématique, principalement pour ce qui est de l'Amérique, hein, que si on parle du Bigfoot ou du Sasquatch, il n'existe aucun fossile d'aucun primate qui a été découvert en Amérique. Jamais. On a des primates à partir de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, mais des primates, là, genre gorilles, chimpanzés ou ça, on n'en a jamais, jamais, jamais trouvé en Amérique du Nord. Donc, si le Sasquatch est un... D'abord, il faut que ce soit une créature qui soit vraiment étonnante pour qu'elle ait évolué sans laisser de fossiles. Il faut que ce soit une créature étonnante qui soit devenue parfaitement plantigrade. Et elle doit être apparue sous une feuille de chou parce qu'il n'y a jamais eu de communauté de primates, mm-hmm. quelle qu'elle soit, en Amérique du Nord.
Et elle s'est désintègre rapidement, clairement.
Ouais. Donc, on a comme des sérieux problèmes. C'est pas rien qu'une question « j'y crois » ou « j'y crois pas ». Il y a comme des questions, des fondements scientifiques qui disent « oups, attends une minute, là ». Là, il y a quand même des pièges auxquels je dois faire face si je veux croire que le Bigfoot ou le Sasquatch existe. Sur ce, je pense qu'on va prendre une pause.
Tout à fait.
Et on revient ensuite avec un autre merveilleux sujet.
Oui, mais je voyais qu'il y a un nouveau sondage concernant les
croyances. Oui, c'est ça, sur les croyances des Canadiens. On va justement parler parce que justement, il y a question du Bigfoot là-dedans.
OK, bon, parfait. Bougez pas, on revient après ces quelques messages. Vous êtes dans les Radio X Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X Morin. Live.
Moi, ce que j'ai trouvé le plus irresponsable cette semaine, c'est de s'engager à perturber et à paralyser le Québec.
Oui.
Il faut que tu casses cette manière de faire-là, qui est une manière de bombe, qui est une manière de crime organisé, de bully. Mais si vous dites que vous êtes transparent, pourquoi la crise de bacon?
Ben.
Si vous affirmez vous-même que vous êtes transparent et vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous déchirez votre chemise?
Morin, live.
Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. C'est le mois de novembre, fou, fou, fou! Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes du 1er au 30 novembre. Informez-vous.
Multiconfort FP.
En face de l'aéroport.
Maison Adam.
Profitez des aubaines incroyables du Vendredi fou pour moderniser votre système de son avec Maison Adam. Économisez jusqu'à 25 % sur une vaste sélection de haut-parleurs et amplificateurs parmi les marques Paradigm, Bowers & Wilkins, Denon, Focal, Totem, Yamaha, Klipsch et plus encore. Passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier pour une expérience clé en main au meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent.
Chez Paradis Jardin et Accessoires, on passe en mode Noël. À ce temps-ci de l'année, tout le monde le sait. Quand on pense décoration de Noël, on se met à chanter la petite chanson. Paradis, paradis.
Vous n'arrivez plus à payer votre maison. Vous n'avez plus l'énergie de l'entretenir. Chaque jour, vous vous dites, demain, je vais régler ça. Et si demain, c'était aujourd'hui? Simplimo achète votre propriété telle quelle, sans commission, sans garantie légale. Recevez une offre en 24 heures et votre argent en moins de 30 jours. Une expérience de vente simple, rapide et adaptée à votre situation. Simplimo.ca 418-883-0356. Parce qu'au fond, la simplicité est souvent la meilleure option.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer.
On est fou au prix du gros.
Ah oui? Fou comment?
Ben, fou comme 11 000 $ comptant.
Tu veux dire quoi?
Ben, t'achètes un véhicule, puis tu peux gagner 11 000 $ comptant.
Arrête, pas vrai.
Oh que oui! Ouais.
Tu me niaises.
Non, ma belle.
Sérieux, 11 000 comptants.
Encore oui! Vendredi, samedi et lundi, achète un véhicule dans l'une des 4 concessions du prix du gros et cours la chance de gagner 11 000 $ comptant. Ça, c'est fou! On t'attend ce vendredi, samedi et lundi dans l'une de nos concessions.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est le vendredi fou. De vendredi à lundi, profitez de 20 % de rabais sur plus de 400 marques. Prêt pour un hiver à prix fou? Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
Solde du vendredi fou, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont à moitié prix. Jusqu'à dimanche 17 h, tous les matelas et sommiers fabriqués par matelas Dauphin sont offerts à moitié prix, sans exception, dans tous les matelas Dauphin.
Alpha à Bravo, Alpha à Bravo.
Mission Black Friday.
Objectif?
SMPR Tactique Plein Air. Hein? De vrais rabais. Je répète, de vrais rabais.
Fenêtre d'action.
Une seule journée. Rabais sur Deal Black Friday. Rabais sur vêtements, sacs à dos, département tactique, plein air, couteaux et lumière, chaussures, département Airsoft et bien plus. SMPR Tactical. Go, go, go! 25 Marie de l'Incarnation ou
www.smprtactical.com.
Traverserais-tu la rue les yeux fermés? Ben pourquoi tu conduis après avoir bu? TZ Capital National.
Lors d'un spectacle d'un lanceur de couteau, son assistante t'invite à participer au numéro en te tendant la main à laquelle il manque deux doigts. Bonjour la confiance.
Chez cette fois Toyota, notre équipe confiance ne vise qu'une chose, votre satisfaction. Pendant l'événement C'est l'heure Toyota, RAV4 hybride branchable SE 2025 4 roues motrices à partir de $149 par semaine, location 64 mois, 22 500 km par année, à compte de $2 500. Subvention gouvernementale de $2 000 incluse. Cinq fois Toyota, une affaire de confiance.
Capsule
Radio X.
Jusqu'à dimanche 17h, profitez des soldes du vendredi fou Matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont à moitié prix. Oui, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à moitié prix, sans exception, dans tous les matelas Dauphin. Le vendredi fou se poursuit tout le mois chez Desjardins Autocollection. Pour la dernière semaine de novembre, on vous offre le financement à partir de 0 % d'intérêt et jusqu'à 18 750 $ de rabais sur certains modèles. Desjardins Autocollection, certaines conditions s'appliquent. Passez-nous voir dès maintenant. De vendredi à lundi, c'est le week-end fou chez Sensation Plus. 30 % de rabais sur tous nos produits érotiques à prix régulier. Profitez de nos plus gros rabais de l'année ce week-end seulement. Sensationplus.com. Bonne nouvelle! Pièces auto-économiques prolongent les rabais en novembre. 10 % de rabais sur les disques de frein BrakeMax qualité première et les plaquettes de frein Bosch. Pièces auto-économiques, 9 magasins, 5 centres de distribution et au pièceséconomique.com.
Radio X Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X en ce vendredi 28 novembre. Et Christian Page, on va parler d'un sondage qui nous démontre en fait quelles sont les croyances des Canadiens et des Canadiennes.
Oui, c'est le premier sondage du genre depuis 2002.
OK.
Donc, ça datait quand même. Mm-hmm. Le sondage a été publié au cours des derniers jours. Il a été lancé au cours de l'année 2025, au cours de l'été 2025, oui. Donc, c'est tout récent. Et c'est vraiment un sondage qui a été fait à l'échelle pan-canadienne. C'est important ici de souligner que chaque année, à peu près, en période d'Halloween, on a toujours une espèce de petit sondage maison. Croyez-vous aux fantômes? Croyez-vous au surnaturel? Mais c'est souvent des sondages avec une quantité là, très limitée de répondants et ça ne sert finalement que à mettre un peu de piquant dans nos croyances pour la période de l'Halloween. Ici, vraiment, les sondeurs ont vraiment été motivés par découvrir un peu quelle était la position des Canadiens et des Canadiennes par rapport aux phénomènes paranormaux et de voir également si, en comparant aux chiffres qu'on avait en 2002, s'il y a eu une modification au niveau de ces croyances. Et qu'est-ce qu'on apprend à propos de la position canadienne sur les phénomènes paranormaux? Entendons-nous par phénomènes paranormaux, on est allé dans des phénomènes qui étaient non religieux. Donc, Donc, on exclut ici les anges, okay. le démon, qui sont davantage, qui relèvent davantage de la religion. On est vraiment allé vers les croyances paranormales, mais non religieuses. Et on a ratissé large. On va des ovnis, en passant par le Bigfoot, en passant aussi par la télépathie et la perception extrasensorielle. Ce que l'on découvre à travers ça, c'est que, en fait, 44 % des Canadiens et Canadiennes croient à au moins un phénomène paranormal. C'est quand même beaucoup. C'est pratiquement une personne sur deux qui croit en un phénomène paranormal. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on est en présence ici d'un phénomène qui est le deuxième phénomène le plus important chez les Canadiens et les Canadiennes, le deuxième phénomène par importance en termes de croyances. Le premier étant, bien sûr, les religions, mais après ça, le deuxième phénomène de croyance le plus important, c'est cette adhésion aux phénomènes paranormaux. 25 % des Canadiens et Canadiennes croient que avoir vécu une expérience à caractère paranormal. Donc, quelqu'un okay. qui dit « Moi, j'ai vu un fantôme, j'ai eu l'impression de vivre une expérience avec un fantôme, ou après la mort, j'ai eu une visite d'un proche décédé, ou etc. » Donc, 25 % des gens, des répondants, disent avoir vécu une expérience qu'ils jugent, à tort ou à raison, c'est pas le débat, mais qu'ils jugent comme étant de nature paranormale.
C'est quand même une personne sur quatre, c'est surprenant, là.
Tout à fait. D'ailleurs, ici, c'est amusant parce que dans ce nombre, il y a beaucoup de gens qui ont dit avoir vécu des expériences avec des proches décédés. Or, depuis, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, il y a énormément de recherches qui ont été faites autour de cette perception du défunt après la mort en période de deuil. Et les scientifiques ont pu identifier toute une série de mécanismes inconscients qui nous donnent cette impression de visite. En fait, la visite n'est pas réelle, mais notre cerveau se plaît à nous jouer des tours et à nous laisser croire que le proche décédé est présent. Puis l'exemple le plus souvent évoqué par les chercheurs, c'est de dire, ben vous savez, une odeur. Si toi, par exemple, tu prends une fleur et tu la sens. L'odeur de la fleur va exciter une série de récepteurs olfactifs que tu as dans le nez, et cette excitation va se traduire dans ton cerveau par une odeur. Tu comprends? L'odeur, ouais. C'est ton cerveau qui la crée. Mais ton cerveau, il est capable de reproduire cette odeur-là, même si on n'excite pas ces capteurs, les capteurs olfactifs de ton nez. Donc, ce qui peut se produire en état de décès, par exemple, imaginons que ton grand-père est décédé, et à un moment donné, tu es en période de deuil, et à un moment donné, tu te lèves un matin, puis tu as l'impression de sentir dans la pièce où tu te trouves l'odeur du cigare de grand-papa ou de la pipe de grand-papa. Tu te dis, mon Dieu, il est décédé, mais je sens l'odeur de sa pipe, donc je crois qu'il est venu me visiter. En réalité, c'est pas vrai. Ton cerveau recrée l'odeur. Mm-hmm. T'es en période de deuil. Il y a une espèce de... En toi, il y a une espèce de... Disons, un échange émotif qui se fait, là. Et à travers toutes ces émotions, ben, ton cerveau va recréer l'odeur de la pipe de grand-papa. Mais évidemment, toi, comme individu, c'est impossible de déterminer si cette odeur-là, tu la sens par tes narines ouais. ou c'est simplement dans ta tête qu'elle est produite. Il n'y a aucun moyen de savoir ça. Ce que tu sais, c'est que tu as la perception de l'odeur de la pipe de grand-papa. Donc ça, il y a plein de chercheurs qui ont fait des études autour de ça au cours des dernières années pour les périodes de deuil. Et on voit aussi dans ce sondage-là que ça se traduit également sur le terrain par un très grand nombre de répondants qui disent avoir vécu des expériences de type un peu fantôme lors de périodes de deuil, par la présence des odeurs ou des sensations de présence qu'ils vont associer aux personnes décédées. Ce qu'on découvre également dans ce sondage, c'est que les femmes croient davantage aux fantômes et aux médiums, hein, c'est probablement parce que ce sont des phénomènes plus spirituels, alors que les hommes croient davantage, par exemple, aux ovnis ou au Bigfoot. Hein. Puis on voit aussi là, tout de suite là, cette différence. Hein. Les ovnis, c'est beaucoup plus matériel, c'est plus physique. Hein. On pourrait dire en blague, pour les hommes, c'est s'il y a-tu un moteur là-dedans, ça marche comment? Il faut-tu changer l'huile? Ouais. Donc, on voit, il y a comme un intérêt. Et c'est pas étonnant de voir que dans les communautés de gens qui s'intéressent aux ovnis, on trouve majoritairement des hommes. Et dans les cercles où on fait de la médiumnité et tout ça, ben c'est principalement des femmes. Ce sont également les femmes qui sont les plus intéressées par les mancies, hein, la cartomancie, les signes du zodiaque, l'astrologie et tout le reste. Ensuite, ce que le sondage montre, et c'est que plus les gens sont éduqués, et principalement les gens qui ont des diplômes universitaires, moins ils sont croyants. Donc, évidemment, on peut se dire que ça paraît un peu élitiste là, de voir ça de cette manière-là, mais c'est vrai que les gens qui ont un diplôme universitaire, souvent, ils ont, à travers le cursus d'études et tout le reste, ils ont développé des outils de sens pour des outils qui auront affiné leur sens critique et ils vont porter des jugements peut-être un peu plus éclairés sur des phénomènes que d'autres auraient tendance à associer à des phénomènes paranormaux. On n'a constaté aucune différence ethnique. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qu'on constate également, c'est que les jeunes âgés entre 19 et 29 ans sont moins croyants. Donc, les sondeurs jugent que c'est parce que les jeunes ont tendance à se détourner des systèmes de croyances qui ne sont pas scientifiques. Ça, c'est un peu le propre de notre culture occidentale. Hein. C'est-tu prouvé scientifiquement? Puis c'est pas prouvé scientifiquement, ça m'intéresse pas. Donc, les gens sont peut-être les plus proches de ça. Moi, j'ai été surpris de cette donnée-là et en même temps, je m'en réjouis parce que ça vient briser un préjugé que j'avais. J'avais tendance à croire que les jeunes qui sont exposés là, au quotidien, ils ont le nez littéralement collé du matin au soir dans leur téléphone portable. Et on le sait, ils sont exposés à énormément d'informations. Et malheureusement, dans les écoles, même au niveau secondaire, on ne développe pas d'outils pour affiner le sens critique de ces jeunes-là. Et moi, j'avais tendance à me dire, peut-être que les jeunes ont... Tu sais, comment est-ce qu'ils font pour déterminer si une information est valable ou non lorsqu'ils la voient défiler sur leur téléphone? C'est du grand n'importe quoi. Mais le sondage montre que, visiblement, il faut avoir confiance. Les jeunes sont peut-être plus critiques qu'on pourrait le croire par rapport à ce qu'ils voient défiler sur leurs écrans.
Parce que sur TikTok, par exemple, il y a des milliers de vidéos, justement, de trucs paranormal ou même de cartomancie. Tout ça, il y a vraiment une panoplie diversifiée auxquelles ils ont accès, là.
Oui, mais visiblement, ils sont plus critiques, en tout cas plus critiques que moi je l'aurais cru, ça, faut le dire. 25% des gens qui disent avoir vécu des expériences à caractère paranormal, 25% d'entre eux, donc un sur quatre qui dit avoir vécu une expérience paranormale, dit l'avoir vécu en période de deuil. Donc, ça revient à l'explication que je te disais, là, notre cerveau peut facilement nous jouer des tours à ce niveau-là. Au niveau des langues, là aussi, on n'a pas constaté, entre les anglophones et les francophones, on n'a pas constaté de différence au niveau des croyances, sauf, le sondage mentionne que, sauf que les anglophones ont peut-être plus tendance à croire au Bigfoot et au Sasquatch que les francophones. Mais à mon avis, je pense que cette donnée-là ne repose pas sur un élément d'ordre de croyance, mais plutôt sur un élément d'ordre géographique. Et je t'explique. Quand on parle du Sasquatch au Canada, par exemple, on en parle surtout dans les provinces de l'Ouest. Hein. C'est là que la créature apparaît. Donc, tous les gens en Colombie-Britannique ou les gens en Alberta, hein, parce que la chaîne des Rocheuses est un peu sur la frontière entre ces deux provinces, c'est surtout dans ces régions-là que l'on voit des Bigfoot ou des Sasquatch. Donc, la presse anglophone dans ces régions-là va parler plus abondamment ou plus fréquemment, même si ça reste sporadique, ils vont quand même parler plus fréquemment des apparitions de Sasquatch ou de Bigfoot. Donc, les populations anglophones de ces régions-là sont exposées à une médiatisation du sujet qu'on ne voit à peu près jamais au Québec. Parce qu'au Québec, mis à part là, quelques observations qu'on aurait rapportées dans la région des Monts Valin, qui se trouve dans la région du lac Saint-Jean, là, tout ça, au Saguenay, mis à part ces quelques observations qu'on a rapportées, jamais la presse francophone du Québec ne parle d'observations du Sasquatch au Québec. On en a pas. Mmh. Mais en Colombie-Britannique, ils en ont. Donc, visiblement, les populations anglophones locales... Donc, pas étonnant que cette donnée-là qu'on associe à la langue, on dit « Ah, les anglophones croient davantage au Bigfoot », je crois que c'est plutôt je crois que ça repose davantage sur un élément d'ordre géographique. Et puis, ce que nous montre également ce sondage, c'est qu'en fait, les données n'ont pas beaucoup changé. Lorsqu'on se réfère au sondage de 2002, ben les gens avaient à peu près les mêmes données. On avait à peu près 40%, 45% des gens qui disaient croire à un phénomène paranormal et à peu près dans les mêmes proportions. Et on savait déjà que les femmes étaient plus attirées par les phénomènes de voyance et de médiumnité, par exemple, que les hommes qui, eux, étaient davantage attirés par les ovnis. Donc, on voit que les croyances ne changent pas beaucoup. Et ce que ça nous montre également, c'est que même si les religions sont en perte de vitesse, les croyances, elles, ne changent pas. C'est-à-dire que les gens, même s'ils croient moins en Dieu, ils croient moins aux religions, il n'en reste pas moins que les gens ont besoin de croire en quelque chose. Donc, il y a 10, 20 ou 30 ans, les personnes qui disaient « Moi, je crois, par exemple, au Christ, je crois à l'Eucharistie, je crois au Saint-Esprit », ben aujourd'hui, les gens qui ont peut-être déserté les églises, ils croient moins à ces sujets à caractère religieux, mais ils croient davantage à la réincarnation, à la mancie ou d'autres trucs, tu vois. Donc, c'est simplement un transfert.
Ouais, c'est ça.
On est parti d'un domaine de religion ou d'un domaine de croyance vers un autre domaine de croyance, mais ça nous montre que fondamentalement, les êtres humains sont des êtres croyants et que même s'ils délaissent les religions, bien, ils se trouvent d'autres mécanismes auxquels ils peuvent se raccrocher et se satisfaire dans leurs croyances. Et c'est un peu ce que ce sondage-là nous montre. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant.
Absolument.
De voir que ces éléments-là nous permettent d'avoir un œil sur un peu l'évolution de ces croyances à travers notre société.
Autre sujet, je ne sais pas si on est en mesure de faire ça en 6-7 minutes, mais peut-être résumer qu'on peut également parler des rêves partagés. Là, écoute-moi, ouais, complètement inconnu.
Là, tu te sens largué, hein?
Oui.
Bon, le rêve partagé, en fait, c'est un sujet qu'on a souvent évoqué dans la littérature sur les phénomènes paranormaux et principalement dans des ouvrages qui s'intéressaient au phénomène des rêves. Et le rêve partagé, c'est deux personnes qui vont vivre ou qui vont faire le même rêve au même moment. Donc, éventuellement...
Un peu étonnant.
Oui, mais quand on dit le même rêve, entendons-nous, là, il n'est pas 100%
le
même.
Pas identique,
oui. C'est ce qu'on appelle, pour que les scientifiques appellent ça un rêve partagé, il faut qu'on ait des similarités qui dépassent le 50%. C'est-à-dire, on a à peu près les mêmes décors, donc une situation qui est très semblable, même décors, les mêmes thèmes, les mêmes personnages à peu près, et les événements et les objets qu'on retrouve dans ces deux rêves-là sont à peu près communs. Ce que l'on sait, comme je l'ai mentionné, il y a une longue littérature autour de ça. On a même des chroniques anciennes où des gens parlent de ça, hein, qu'ils ont vécu des rêves partagés. Généralement, on les associe à des gens qui ont des liens émotifs entre eux. Donc, un couple, un époux-épouse, une mère avec sa fille ou les enfants, etc. Comme s'ils partageaient là, quelque part dans l'invisible une espèce de connexion et à un moment donné, ils vont vivre le même rêve. Ce qui est important ici, c'est que le rêve doit être fait en même temps. Parce que si toi, tu fais un rêve et puis tu le racontes à ta conjointe,
ton conjoint,
peu importe, et oui, voilà, et puis une semaine après ou deux jours après, il dit, ben voilà, cette personne-là te dit, voilà, j'ai fait le même rêve. Ouais, mais là, il était influencé, là, il y a eu une contamination. Il ne faut pas que cette contamination-là puisse exister. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup de... Ça reste très difficile à documenter, hein, parce que les gens, généralement, ont pas... Quand on fait des rêves comme ceux-là, on s'en parle pas immédiatement le lendemain ou en se réveillant, là. Je veux dire, toi, tu te réveilles, bon, puis éventuellement, dans la journée ou deux jours après, tu vas raconter, par exemple, j'ai fait tel ou tel rêve, tu le racontes, puis là, d'un coup, tu parles avec ta mère ou ton père au téléphone, puis lui, il va dire, ah, j'ai fait le même rêve.
Ouais.
Mais est-ce qu'on est certain que vous l'avez fait en même temps, au même moment? Tout ça reste excessivement anecdotique. Mais là, voilà que l'Université de la Virginie, qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes dits de perception extrasensorielle. Elle a fait énormément de recherches, notamment sur des phénomènes comme la télépathie, la télékinésie et tout le reste, veut un peu s'attaquer à ce phénomène du rêve partagé. Est-ce qu'il existe? Et essayer de comprendre comment il peut fonctionner. Parce que jusqu'à maintenant, on avait comme... deux hypothèses pour évoquer les rêves. Hein. On se disait, bon, quelque part, on sait Là, c'est assez complexe, là, mais on sait que les gens, lorsqu'ils écoutent de la musique ou ils sont en état de méditation, on sait qu'ils peuvent synchroniser un peu les ondes cérébrales.
Mm-hmm.
Et puis on... Et donc, et par exemple, si on prend une mère, une fille, par exemple, ou un couple lesbien, ils vont, s'ils vivent ensemble, ben, par exemple, le cycle menstruel vont se synchroniser.
Oui, oui.
Donc, quelque part, il y a cette espèce de, comme ces ondes qui, on arrive à se, un peu à se synchroniser. Et on sait que, bon, lorsqu'il y a au moment du sommeil, il y a des espèces de modifications dans les ondes. Hein, les basses fréquences, les hautes fréquences vont se transformer. Est-ce que deux personnes qui partagent une relation émotive entre elles, est-ce que ces deux personnes-là pourraient quelque part, au moment de leur sommeil, synchroniser leurs ondes et de cette manière-là échanger un rêve? Écoute, on est loin, là. On est clairement dans l'univers de l'hypothèse, parce que même si on échange des ondes, on s'explique mal comment ces ondes-là pourraient se traduire par des images ou des sensations communes.
Ouais, je comprends.
Donc là, ça devient... même si tu synchronises deux choses en même temps, là, quand tu dis oui, mais là, c'était des images, des sons, des voix... D'un rêveur, d'un dormeur à un autre, là, c'est plus compliqué. Et l'autre hypothèse, et là, on est encore plus loin, c'est ce qu'on appelle le lien quantique. Hein. Est-ce que quelque part, notre conscience, ou deux consciences, celle de toi et d'un proche, pourraient être liées par une espèce de lien quantique? Et dans l'invisible, au moment où toi tu fais, au moment où toi tu fais un rêve, il y a une espèce de transmission de données ou d'informations qui est transmise, et l'autre dormeur reçoit la même information qu'il va éventuellement décanter et arriver à dire, ben voilà, j'ai fait le même rêve. On est essentiellement dans l'univers de l'hypothèse. Et au moment où on se parle, moi, j'essaie d'imaginer le défi des chercheurs de l'Université de Virginie d'essayer de déterminer ou d'établir un protocole qui va permettre de vérifier l'acuité de ces informations-là entre deux dormeurs. Et s'ils ont fait le même rêve au même moment, ça m'apparaît là, quasi une tâche impossible. Mais néanmoins, on veut essayer d'aborder cette question-là. On sait qu'on avait des rêves, certaines personnes avaient parlé de rêves prémonitoires, mais là, est-ce que des rêves partagés, ça existe. Anecdotiquement, si on parle essentiellement en termes d'anecdotes, oui, ça existe parce qu'on a une littérature abondante autour de ça. Mais encore une fois, faut-il démontrer que ces rêves-là se produisent réellement en même temps et qu'il n'y a pas eu de contamination à travers le temps, là, lorsque ces rêves-là se produisent? Est-ce qu'ils sont produits à deux jours d'intervalle? Et est-ce que le sujet A avait communiqué son rêve au sujet B, qui, lui, deux jours après, a fait le même rêve? Donc là, il y a toute une dynamique qu'on doit essayer de faire. Mais c'est quand même intéressant parce que l'univers du rêve, c'est encore quelque chose qui nous est très peu familier. On étudie les rêves. Les chercheurs ont pu identifier toutes sortes de parasomnies, hein, des troubles du sommeil, la narcolepsie, les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil. Mais quand on arrive à parler du rêve, ça reste encore un peu mystérieux. Pourquoi est-ce que l'on rêve? Actuellement, l'hypothèse de base, c'est que quand on dort et qu'on rêve, notre cerveau se nettoie, là. Et qu'est-ce qui alimente les images de nos rêves? Est-ce que ce sont des émotions, des expériences vécues dans les derniers jours? Comment tout ça s'assemble, à quoi sert réellement le rêve. Il y a encore plusieurs éléments qui restent un peu tabous et mystérieux dans cet univers-là. Et bien sûr, le rêve partagé fait partie de ces mystères qui nous restent encore à élucider.
J'ai demandé à l'intelligence artificielle cette semaine si elle pouvait m'expliquer les rêves. Elle ne comprend rien.
Non, c'est assez complexe, les rêves. Mais c'est vrai que... Moi, écoute, une petite anecdote, je sais qu'on arrive au bout du temps, mais une petite anecdote. Je me rappelle, il y a comme très longtemps, là, on est dans les années 90, moi, j'étais plutôt résistant aux idées véhiculées par le milieu de l'ésotérisme. Alors, je croyais pas du tout à ça. Puis dès que tu me parlais de l'ésotérisme, je faisais un peu de l'urticaire. T'sais. Fait que, et puis, je me rappelle, j'avais reçu, je faisais une petite émission à la télé communautaire. Puis là, je me suis dit, on va vider l'histoire des rêves. Ouais. Pour moi, les rêves, c'était rien d'autre que des images la nuit, puis qui servaient absolument à rien. Puis c'était du grand n'importe quoi. Et donc, je reçois des gens autour de la table. Puis il y avait là-dedans des gens qui travaillaient dans des cliniques spécialisées où on faisait de la recherche sur le sommeil. Et quand j'ai dit, ouais, bon, ben le rêve, finalement, c'est de la foutaise, ça sert à rien. Là, j'ai tout vu le visage s'étirer autour de moi. Et là, j'ai dit, ouais, là, je pense que je viens de dire une bêtise. Là. Puis effectivement, le rêve, il est utile. Le rêve, il est la transmission de quelque chose. Hein. C'est ton inconscient qui te parle. C'est pas simplement des images comme ça qui sont générées de manière aléatoire. Ton inconscient te parle.
C'est pas que l'imagination, ouais.
Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de... Oui, c'est ton imagination, mais ton imagination puise son inspiration dans ton inconscient. Donc, c'est pour ça que le rêve, quelque part, il est important. Tu sais. Que voilà, ça m'a fait changer de... J'ai changé d'avis après ça sur les rêves.
Yeah, on dit qu'il y a seulement que les fous qui changent pas d'idée, hein, c'est ça?
Ah oui, oui, puis moi, je dois être bien, bien fou parce que j'ai changé bien souvent d'idée.
Christian Page, encore une fois, c'était vraiment fort intéressant. On va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files. Je te souhaite un sapristi de bon week-end.
À toi aussi.
Merci.
On va voir un petit spectacle d'Elvis cette soirée. Enfin,
c'est vrai?
Ça va être bon. Ah oui.
J'ai appris rapidement.
Un personnificateur d'Elvis, là, ouais. J'aime bien ça.
J'ai appris à jouer de la guitare quand j'étais petit en regardant du Elvis Presley. Mon père avait des cassettes vidéo. Fait que, ouais.
Ben voilà. On va voir un autre élément.
Tout à fait.
Un autre élément qu'on a en commun.
Oui, oui, oui.
Bon week-end à toi.
Merci, Marie-Man. Bye, Christian. Donc, c'était les Radio X-Files sur les ondes de choix Radio X. Au retour de la pause, c'est la Sexploratrice. Bougez pas. This
is not a test. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le retour de Radio X.
Radio. X. Avec DH, Jordan et Mel Trudel. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X.
Le retour de Radio X présenté par 888casino.net. Longez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouer de manière responsable.
En fin de semaine. Écoute, légende du rock.
Tu pourrais gagner ton 5 à 7 pour 4 personnes à la cour arrière de Québec qui t'attend au Grand Marché. Menu d'inspiration mexicaine, cocktail, bière de micro, musique live et plus encore. Visite la cour arrière de Québec et groupe la cour arrière.
C'est la folie du